Bonjour à tous, nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Rivers. On est dans l'attente d'une Game 4 entre Boston et Dallas, un Game 4 qui aura lieu ce soir. En attendant, Shai, je te propose qu'on parle un peu de Luka Doncic. On revienne un peu sur le comportement de Luka Doncic parce que lui est revenu dessus, il s'est exprimé sur son attitude lors du Game 3. On l'a vu beaucoup râler envers les arbitres, se plaindre, ne pas revenir en défense, se faire passer dans tous les sens et finalement prendre 6 fautes. Et Luka, il s'est donc exprimé longuement auprès des journalistes. Je ne sais pas si tu veux nous donner quelques passages de ce qu'a dit
Luka. Alors là ce n'était pas tellement devant un parterre de journalistes, c'était une interview un peu exclusive avec Malika Andrews d'ESPN. Et forcément l'interroger sur ce qu'a fait parler, il y a même eu la sortie de Brian Windhorst qui est aussi quelqu'un d'ESPN qui a été très très dur sur le côté, on en a parlé hein, qui a dit que son comportement avait été impardonnable au niveau de la défense, au niveau du fait qu'il continuait de râler après les arbitres alors que sa direction et le coaching staff ont insisté toute la saison pour qu'il arrête, et il avait vraiment pas arrêté, mais il avait progressé là-dessus. Et donc, on se demandait s'il allait vouloir répondre à cette question, s'il allait assumer un peu, s'il allait nous faire une Draymond Green. Enfin, on savait pas trop. Et au final, il a quand même fait amende honorable. Je sais pas à quel point les Mavs lui ont pas dit fais amende honorable et avoue que t'as un peu merdé, vu que c'était des discussions qu'ils ont eues entre eux pendant toute la saison quasiment et pendant les playoffs. Hein. Mais au final, il a quand même reconnu, il a dit « bon, bah, c'était un match très physique, ce que j'ai fait, c'était pas le truc le plus intelligent à faire, surtout au moment des finales. Quand il y retourne dans le vestiaire après, il a dit « les gars, désolé, je peux pas faire ça, particulièrement en finale. » Il a quand même dit en saison régulière c'est un peu différent. Il a dit c'est un peu différent en saison régulière. En gros, je m'autorise à péter des plombs sur les arbitres en saison régulière vu que ça a moins d'incidence. Mais là ça pouvait pas être le cas et que c'était pas une excuse. Il a quand même remercié Kyrie qui avait eu des mots assez sympas pour lui après en disant qu'il avait juste besoin d'un câlin. Alors c'est le Kyrie Irving de 2024 dans la compassion et l'amour. Donc leur relation est toujours aussi bonne même après. Les trois premiers matchs très très difficiles pour les Mavs. Il a une approche un peu comme ça. Et il a pas parlé que de ça. Hein, d'ailleurs, il n'est pas juste revenu sur le craquage. Il a d'ailleurs pas tellement contesté l'arbitrage. Je pense aussi que c'était peut-être une volonté de la part des Mavs de calmer un peu le jeu avec les arbitres, parce qu'il reste un match mine de rien. Il en reste au moins un. Et je pense qu'ils aimeraient aussi, ils aimeraient que le fait que Luka arrête de râler se traduise aussi par peut-être quelques coups de sifflet différents, parce que c'est humain aussi, peut-être pour les arbitres, parfois, je pense que quand ils se font pourrir par un gars, ils ont un biais qui devient négatif envers lui, hein, je pense.
En fait. Juste sur l'attitude de Luka, tu sens qu'il y a de la tension. Lui-même, il a dit mais en fait, c'est juste que je veux tellement gagner, je le montre pas de la bonne manière. Là, il y a 3-0. Il y a 3-0 pour Boston. Généralement, quand une série a 3-0, on considère ça comme terminé. Parce que voilà, l'histoire nous a appris que personne n'a jamais remonté un 3-0. Je me souviens qu'au tour précédent, les Timberwolves étaient très nerveux. Pas forcément de la même manière, pas forcément envers l'arbitrage, mais il y a beaucoup de nervosité dans leur jeu. Et une fois à 3-0, le match d'après, il y a eu justement un espèce de relâchement, ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match, alors ils n'ont pas réussi à finir la série, évidemment, ils ont perdu derrière en 5 manches. Là, Luka Doncic, il parle de reprendre du plaisir, de comment ça peut changer, comment les choses peuvent changer. Il dit, bah voilà, prendre du plaisir. Là, à 3-0, pareil, il y a moins de pression à se mettre, c'est le moment de se lâcher, de se faire plaisir. Et en fait, on est dans une série. Si tu prends match après match en te disant de toute façon, ok, moins de pression, on y va juste pour prendre du plaisir, en fait, tu peux revenir comme ça. Je pense que c'est comme ça aussi que les Celtics sont revenus à 3-3 l'an dernier contre le Heat. Alors oui, une équipe comme Boston, tu peux te dire qu'elle ne va pas perdre 4 matchs de suite. Je suis pas en train d'essayer de faire un scénario miracle et inespéré pour les Mavs, mais tu prends un match, tu prends du plaisir. Porzingis, peut-être qu'il ne revient pas. On peut parler de Porzingis. Hein. Joe Mazzulla a dit que Porzingis allait tout faire pour revenir. Je pense que ça reste quand même une clé importante. Oui, ils ont gagné le dernier match sans lui, mais je pense que ça reste quand même un joueur très important pour Boston. Il y a quand même des matchs assez serrés dans l'ensemble, même si à chaque fois, ça penche en faveur des Celtics et ça tend à montrer que les Celtics sont une meilleure équipe. Voilà, tu prends ton prochain match à domicile. Tu vas jouer à Boston. Encore une fois, je l'avais déjà dit au tour d'avant et je ne m'attendais pas à ce que les Timberwolves gagnent 4-3. Mais évidemment, je me doutais que Dallas allait finir vite. Et là, je m'attends aussi à ce que Boston finisse vite la série. Mais tu joues des contracts et à un moment, la pression, elle peut changer de camp. Et autant essayer d'arriver avec cette idée, comme il dit, bah, voilà, on joue pour se faire plaisir. Et puis, quelque part, c'est comme ça qu'ils mettent du rythme. Il a parlé du rythme.
Ouais.
C'est quand on se fait plaisir, on pousse la balle, on est tenté de courir, on partage un peu plus la balle. Il y a moins de tension. D'ailleurs, ça, pareil, ça me fait repenser à autre chose. Mais les moments où Dallas a mis du rythme au début dans le premier quart-temps du Game 3, ils ont mené 25-12. Les Celtics ont répondu avec des 3 points. Et là, d'un coup, dès que ça devient crispé, dès que le score il se resserre, c'est le moment où Dallas ralentit la balle, où Luka ralentit la balle. S'il y a ces notions de se faire plaisir, peut-être qu'en fait, sur tout un match, ils vont enfin se lâcher, s'enflammer un peu et comprendre que c'est aussi comme ça qu'ils peuvent battre Boston. Bon, j'extrapole beaucoup, tu vois, j'imagine. Je m'attends pas à un scénario où Dallas gagne 4 matchs de suite. Mais tu vois, tu peux relancer un tantinet ta série, revenir à 3-2. Les Hawks l'ont fait aussi contre les Celtics l'année dernière. Et 3-0, les Celtics se relâchent un peu, Atlanta se décrispe et derrière ils reviennent à 3-2. Tu vois. Ils gagnent pas la série, mais tu vois, tu relances un peu les choses, quoi.
Non, puis c'est important d'essayer quand même de gagner, même si on peut. Bon, alors, c'est pas définitif, ça va bien arriver un jour, hein, une équipe qui va dilapider 3 victoires d'avance et perdre des finales ou un match de playoff. Mais même si on acte que Boston va être champion, c'est important pour Dallas de pas finir sur un 4-0, parce que ça reste quand même, tu te fais sweeper en finale, ça arrive pas si souvent que ça. Et même après, dans l'optique de revenir peut-être l'année prochaine, c'est quand même bien de montrer que t'es pas si loin que ça, même si dans le jeu, on a vu qu'ils étaient pas si loin que ça, sur le dernier match notamment. Ils sont au contact à la fin, Luka est éjecté. C'est très important. Et moi, je m'attends à ça, je m'attends à un match plus libéré. Le fameux 22, c'est aussi ça, il en a parlé, Luka, de ça dans l'interview. Le fameux 22, c'est parce qu'ils se sont mis à rechercher le plaisir, la vitesse, parce que c'est aussi ça qui a fait la différence, tu l'as dit, la vitesse de jeu, le rythme. Et je m'attends à ça, j'espère revoir ça de la part des Mavs. Luka a aussi évoqué, Malik Andrews lui a parlé du fait qu'il soit blessé, du fait qu'il va sans doute. Ils vont lui refaire une injection, hein, d'antidouleur au niveau du thorax, parce que c'est quand même assez douloureux, visiblement. Jalen Brunson, quand il était son ancien coéquipier, a été interrogé sur le sujet. Il a dit que pour lui, il fallait quand même pas oublier qu'il était blessé, que c'était un facteur important, qu'il le voyait et qu'il le sentait. Il y avait le contrôle, la mauvaise gestion des émotions sur le dernier match, mais que pour lui, le fait qu'il soit blessé, ça générait de la frustration. Et Luka lui-même l'a dit,
Ouais.
hein. Donc, moi, j'espère pour le. Alors, le suspense, moi je considère que les finales sont quasiment terminées, mais même pour Dallas, pour pas qu'on reste sur cette impression-là en finale et qu'on n'oublie pas le reste du parcours qui a été top, je pense que c'est très très important qu'ils arrivent à faire un gros match. En plus, devant leur public, ouais, au-delà du fait de relancer un éventuel suspense, ça valide un peu tout ce qui s'est passé avant.
Ouais, les blessures, c'est sûr que ça joue. La frustration de ne pas être à 100%, la frustration de ne pas pouvoir tout donner, la frustration d'être ciblé. J'ai une petite stat là sur les 10 dernières années. Les trois joueurs ou les trois séries où un joueur s'est le plus fait passer en drive, mais c'est pas le nombre de drives où c'est le plus fait passer, pardon, c'est compliqué à expliquer en français, mais le pourcentage de drive où il a laissé son adversaire passer, c'est plus comme ça. Donc par exemple, s'il y a 10 drives, un mec qui laisse passer 8 fois son adversaire, c'est 80%, donc le plus grand pourcentage à chaque fois. Donc les trois premiers joueurs. Le troisième joueur qui s'est fait le plus passer, c'est Luka Doncic en 2024 contre le Thunder. Le deuxième joueur qui s'est fait le plus passer, c'est Luka Doncic contre les Clippers en 2024. Et le premier joueur qui s'est fait le plus passer, c'est Luka Doncic en 2024 contre les Celtics. Donc c'est effectivement Luka Doncic sur les 10 dernières années, c'est lui à chaque fois, c'est lui qui se mange le plus de drive, qui arrête le moins de drive au final. Et ça doit aussi générer de la frustration, surtout quand t'es pas à 100%.
Il est ciblé de toute façon, on l'a vu, Boston le cible comme les autres adversaires ont essayé de le cibler, sauf que ça a globalement moins marché contre les autres équipes. Là, je pense que c'est vraiment un tout, c'est le fait qu'il soit diminué physiquement, c'est le fait qu'il ait du mal à gérer sa frustration et son niveau de le niveau d'énergie aussi, l'énergie qu'il met d'un côté ou de l'autre du terrain, c'est variable. Il a beaucoup de choses de responsabilité en attaque et en défense, quand c'est pas quelque chose de naturel, je pense pas que ce soit quelque chose de naturel chez Luka de faire l'effort défensif. Et c'est ce que lui reprochait Winders de manière peut-être sans doute trop virulente, parce que c'est pas tout le temps un choix conscient de sa part de dire vas-y, j'y vais pas. Il y a deux, trois séquences, on les a vues, les gens se sont amusés à les relayer, hein, où il revient pas en transition, soit parce qu'il est en train de râler, soit parce qu'il trottine au lieu de sprinter. C'est des choses. Là, je pense qu'il est prêt à les assumer aussi, ça. Il y a pas, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ça reste un joueur qui découvre les finales NBA, ça reste un joueur encore assez jeune, théoriquement pas encore dans son prime. Je pense qu'il faut à la fois attendre énormément de lui, parce que toutes les discussions qu'on a eues ces dernières semaines, le podcast qu'on avait fait avec Théo, jusqu'à même imaginer que ça pouvait un jour être un prétendant au titre de GOAT, évidemment c'est très très lointain, il en est très très loin, mais juste il a le talent pour ça, donc on a des exigences très très hautes, des attentes très très élevées. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il affronte une équipe extrêmement forte, qu'il est diminué et qu'il n'est pas encore totalement à maturité, notamment sur le plan émotionnel.
Yes. D'ailleurs, pourquoi ça a été moins puni contre d'autres équipes ? Je pense que Boston est la seule équipe qui a vraiment 5 shooters en permanence sur le terrain. Donc, c'est beaucoup plus difficile de venir en aide. Ah, quand tu joues, OKC, tu sais que le mec qui défend Josh Giddey, il peut venir en aide. Il peut laisser Josh Giddey tout seul derrière la ligne à 3 points. Contre chaque équipe, il y a toujours un mec que tu peux laisser à peu près tout seul. Contre Boston, tu peux pas. Et ça rejoint, pour moi, encore une fois, l'importance de Porzingis, qui a essayé de revenir selon Joe Mazzulla. M'étonnerait qu'il puisse vraiment jouer, on verra, ou alors une dizaine de minutes, mais va savoir dans quel état. Bon, on verra ça sera ce soir sur le Game 4. Je te propose qu'on enchaîne avec autre chose qui n'a rien à voir. Je propose qu'on parle un peu du All-Star Game. Événement qui n'en est presque plus un. Adam Silver s'est exprimé un peu sur l'All-Star Game. Voilà, tout le monde veut savoir comment on va faire pour rendre l'All-Star Game compétitif. Il a avoué quand même que c'était même plus vraiment la priorité maintenant de la NBA. J'ai l'impression qu'en discutant avec les joueurs, il s'est rendu compte qu'il dit on est past that. Donc voilà, c'est derrière nous, quoi. Ils se rendent compte qu'avoir un All-Star Game compétitif, quel que soit le format, il a été interrogé notamment sur le côté les Américains contre les internationaux. Pense que même ça suffira pas en fait à ramener un semblant de compétitivité au All-Star Game, parce que les mecs ont plus envie, quoi, et que du coup ils réfléchiraient à d'autres formats.
C'est la première fois qu'il fait cet aveu là quand même. C'est d'habitude, ouais, il essaie, ouais, quand même de garder un peu la face. On l'a vu, je sais plus dans quel contexte c'était, où il annonçait, c'était quoi, il avait fait une annonce et tu voyais qu'il était énervé contre les joueurs. C'était après le match, peut-être, hein, justement.
Ouais, juste après le match. Ouais, c'est ça. Il avait l'air en mode, absolument qu'on rende ça compétitif. Parce qu'il y a eu des discussions depuis. Ouais.
Parce que c'est quand même quelqu'un d'assez. Il arrive à faire bonne figure en général. C'est plutôt un mec assez souriant quand il parle de NBA, du All-Star Game. Et je me souviens qu'il avait vraiment l'air dégoûté contre les mecs. Et c'est la première fois qu'il fait cet aveu-là, je pense, un peu aveu d'impuissance. Mais à partir du moment où c'est acté, s'ils disent, même si on leur file 1 million, 2 millions. Ces mecs, c'est des millionnaires, donc 1 million ou 2 pour la plupart des mecs qui sont All-Star Game, c'est de la petite monnaie, quoi. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Il a mis en avant le fait que d'autres événements du All-Star Game. Il a notamment cité le concours entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, qui a, il faut le dire, été un succès parce que les gens en ont parlé, les gens ont apprécié que les trucs annexes pouvait être maintenant les vrais événements du All-Star Game, et que le match, ce serait un peu presque par tradition. Après, peut-être faut voir un autre format, je sais pas. Peut-être qu'un jour ils tenteront États-Unis contre le reste du monde pour voir un peu l'intérêt des gens. Mais je pense que l'idée d'un match compétitif, c'est la première fois qu'il m'a l'air d'être résigné à l'idée d'avoir un match compétitif. C'est un peu triste parce qu'on en a connu quelques-uns quand même, on en a vu par le passé et on aimait bien ça, mais je pense qu'il a peut-être raison d'essayer de passer à autre chose et de plutôt se plancher sur tout ce qui est autour et qui peut rendre quand même le week-end sympa et faire en sorte que les gens regardent, parce que les audiences baissent. Même, je pense, les interactions sur les réseaux baissent, les gens regardent moins, c'est inévitable.
Ouais, c'est un truc... Moi non plus, je vois pas comment tu peux vraiment... Alors, en fait, il n'y a que les joueurs qui peuvent rendre ça compétitif. Il n'y a que les joueurs qui peuvent déterminer... Je pense que toutes les solutions, genre le vainqueur, il a l'avantage du terrain en finale, ça changera rien. Déjà, ce serait injuste, ça rendrait la saison régulière moins intéressante, parce que du coup, quel intérêt de se casser la tête à être premier. Regarde le parcours des Celtics, t'imagines les Celtics qui dominent toute cette ligue et arrivent une fois en finale, tu leur dis vous n'avez pas l'avantage du terrain, parce que, sachant que ça changerait peut-être même pas plus grand-chose. Et surtout, regarde, combien de mecs ont joué le All-Star Game et là sont concernés par les finales? Kyrie était All-Star cette saison. Donc il y avait Kyrie, Luka. Il y a 4 mecs, qui sont concernés sur les 24 qui ont été invités au All-Star Game. Il y a 4 All-Stars qui sont concernés par les finales, bon, ça n'a pas trop de sens.
Ouais.
Donc voilà, peut-être qu'à un moment, les joueurs se diront, bon, là, on veut vraiment jouer parce que X ou Y raison, mais sinon, voilà, ça restera un événement un peu anecdotique à ce niveau-là du milieu de saison.
Du coup, ça veut dire qu'il faut soit essayer de relancer ou supprimer le Slam Dunk Contest, par exemple, soit créer des nouveaux formats l'histoire du 1 contre 1, c'est sympa, mais ça implique aussi de la compétitivité de la part des mecs qui vont participer, quoi. S'ils sont
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y.
Non, je dis ça. Il faut que les mecs qui participent à ça, parce qu'il y a plein de gens qui demandent un tournoi de 1 contre 1. Mais pour que ce soit intéressant, il faut que les mecs ils se livrent un minimum aussi.
Oui, t'as raison.
Et est-ce que les superstars vont vouloir se mettre en péril, déjà au niveau de l'image? Parce que, si tu te fais, si tu te prends un 12-0 en 1 contre 1. Contre un autre mec, enfin tu vois là, l'image de marque,
c'est dur, effectivement.
Je pense qu'on devrait envoyer Pierre Armand pour qu'il leur montre un peu avec ce qu'il nous avait dit la dernière fois là. C'est un contre un qui finisse à 34-0. Non, mais il faut quel que soit le format. J'ai l'impression que le concours de shoot il reste à peu près attrayant parce que c'est pas ce qui est le plus exigeant physiquement. Mais pour le reste, il faut trouver d'autres trucs, ouais, des petits événements ponctuels comme des duels au shoot. Ça peut être sympa, mais faut plancher dessus, quoi.
Je pense aussi que c'est à nous médias d'y accorder moins d'importance. Au-delà de n'importe quel format serait nouveau, etc. C'est à nous de traiter le truc différemment, de pas s'attendre à un match. Un match phare, de pas présenter ça comme un truc dingue, genre c'est l'All-Star Game, tu vois. Et du coup, le lendemain, de pas avoir, ils se sont foutus de notre gueule, ce qu'on a fait cette année, parce qu'on est encore un peu dans l'attente, alors que pourtant, je sais pas, tu l'as regardé en direct, l'All-Star Game?
Non.
Moi non plus. Et je pense que moi, je sais même pas quand c'est la dernière fois que j'ai, je sais pas à quand remonte le dernier All-Star Game que j'ai regardé.
Ça doit faire 3-4 ans. Je crois que j'avais regardé quand ils avaient fait le format un peu spécial, juste après la mort de Kobe, je crois. Je l'avais regardé. Mais sinon, par contre, on a la différence, c'est qu'avant, par contre, avant, je me levais tout le temps. Ça, c'était quand j'étais vraiment ado, je le ratais pas parce que même sans que ce soit le match le plus compétitif de l'année, il y avait un côté exceptionnel. Après, on était moins abreuvé de matchs et on avait moins accès aux matchs, donc c'était un match de plus qu'on pouvait regarder. Donc.
Mais peut-être que c'est un truc d'ado, peut-être qu'on doit traiter en fait la même manière que la NBA, peut trouver des formats différents. Je pense que les médias, je parle pas juste de nous, je parle évidemment les médias US, mais aussi nous, médias français tous, en fait, on doit traiter le All-Star Game différemment. Et si on le traite différemment, ça sera moins présenté comme un truc dingue et peut-être. Voilà.
Avec les implications, le truc aussi, et pour finir là-dessus, c'est que. Quand on parle de la carrière d'un joueur, on dit, regarde, il a été 8 fois All-Star, 12 fois All-Star, il a été 4 fois MVP du All-Star Game. Ça avait une importance, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi recalibrer là-dessus et se dire, on s'en fout, c'est bidon, quoi.
Après, le MVP du All-Star Game, ça rentre pas en compte dans les classements des joueurs. Le nombre de sélections All-Star, parce qu'on peut détacher sélection All-Star de après, qu'est-ce qui se passe effectivement All-Star Game, sachant qu'il y a plein de mecs qui sont sélectionnés All-Star Game qui le jouent pas. Il y a des gars, ils ont 12 sélections All-Star, ils en ont peut-être joué que 6. Tu vois, parce qu'il y a 6 autres où ils étaient blessés. Donc, quelque part, et ça, on s'en souvient pas. Moi, je me souviens pas quel All-Star Game chaque a joué ou pas joué, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Donc, les sélections All-Star, ça, on peut considérer que c'est important. Les joueurs, ils donnent quelque chose. Ils ont des contrats liés à ça. Même si ça me titille toujours quand les mecs, on a été snobé. Puis derrière, tu les vois All-Star Game, ils jouent pas quand ils sont là. Voilà, on peut différencier sélection All-Star et le match en lui-même. Voilà, le match, il a plus trop d'importance, je pense. C'est peut-être un truc d'ado. Voilà, peut-être que juste, c'est un truc, quand t'es jeune et ça t'excite un peu plus de savoir que toutes les superstars vont être réunies pour un match. Voilà. Enfin, bref. Voilà pour le All-Star Game. Exceptionnellement, demain, il n'y aura pas le CQFR du samedi, celui où on répond à vos questions. Ça va sauter pour cette semaine. Donc, voilà, il y aura peut-être une double dose d'ici une semaine. Par contre, demain, il y aura un débrief du Game 4. Donc, il y aura quand même un CQFR. Juste, ce ne sera pas celui et ce à quoi il fallait répondre. Ce sera un CQFR classique lié au Game 4. Donc, on se fera ça avec Théo. Théo et moi, pour le coup, je crois
qu'il y a Pacha.
On sera tous les deux, on débriefera le Game 4. Eh bien, écoutez, soyez au rendez-vous, soyez présents, soyez là demain matin et le dimanche sur Hallhoop Culture. Voilà, ça ne s'arrête jamais sur la chaîne Basket Session Reverse. Maintenant, bonne journée à tous.
Ciao.